Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 16h03. On y revient au mastic dans le Super Moscato Show. Marion Bartoli, oui, la petite Bartoli est avec nous. Denis Charvet, The Flower, From Cahors, Adrien Aigouin. Pierrot Dorian, mon petit Pierrot, dans une demi-heure, c'est le programme.
Alors, dans une demi-heure, on va faire le point sur toutes les équipes qualifiées pour la Coupe du Monde, parce qu'il y en a tellement, Vincent, qu'on a un peu de mal à s'y retrouver. Mais ça y est, on connaît tous les qualifiés, tous les groupes, le parcours de la France, parcours idéal, parcours logique.
On va prendre l'Italie, le dernier adversaire de la France.
Au début, ça commence par la kermesse des écoles, quand même, cette Coupe du Monde. Il y a tout le monde.
Il y a tout le monde et ça risque.
Sauf l'Italie.
Ça risque de s'amplifier, hein, parce qu'on peut avoir vraiment des Coupes du Monde à 64 très rapidement.
Hein. Ah non.
Ça y est, c'est la tendance.
Il y a un minimum, quand même.
Il faut s'y habituer. C'est-à-dire qu'avant, tu avais des éliminatoires. Bah maintenant, c'est comme si les éliminatoires, elles étaient
en compétition.
En compétition, voilà, pendant la phase finale, c'est tout. Hein. C'est comme ça. Hein.
Ouais, mais faut pas faiblir le niveau d'une Coupe du Monde et fatiguer les gens avec un mois et demi de compétition. Regarde-nous au rugby, c'est très long. Du temps de repos, c'est long.
Ils ont même rajouté un huitième en rugby, t'imagines?
Ah ouais, c'est long. Je pense pas qu'ils rajoutent la Coupe du Monde. Ils rajoutent pas une semaine. Hein. Mais bon, au rugby, c'est long. Tu le comprends. Mais au football, faut pas rajouter. Faut pas que ça dure deux mois parce que tu fais venir la Gambinini. Voilà.
J'ai toujours pas avancé.
C'est un jeu de mots qu'a fait Vincent juste avant les infos. Donc vous pouvez podcaster la première heure si vous voulez.
On le décrypte en
train de décrypter.
C'est un mélange des pays africains qui n'existent pas. Voilà.
Alors, le programme avant Moscazap, c'est le tennis. Vincent Moscato, sceptique sur Arthur Fils. C'est Marion qui règle le problème, ok. Et puis, on cherche un président pour l'Olympique de Marseille à 17h avec Eric Dimeco. Un bon président doit-il forcément venir du monde du foot? Le journal moyen, deuxième édition, Adrien.
Pascal Olmeta a frappé dans Rotten sans flamme avec un magnifique Moscar. Jamais entendu ce Moscar, incroyable.
Ah ouais.
L'histoire de bave. Et puis, une séquence assez lunaire. Un supporter argentin s'est incrusté dans une conférence de presse du sélectionneur pour le prévenir de faire attention à la Coupe du Monde. C'est comme ça, le foot rend fou avant la Coupe du Monde en Argentine.
Oula, faut se calmer, hein.
Et puis dans le Kikadi, vous gagnez votre séjour de 3 nuits à bord d'un bateau de location Le Boat. Pour gagner votre séjour, il faut envoyer Kikadi par SMS au 7-32-16 et ensuite il faut être bon, hein. Une fois que vous êtes sélectionné, il faut gagner le Kikadi. Vous êtes voilà, avec une bande de vilains qui sont parfois un peu largués sur les questions du Kikadi.
Non,
ça peut arriver.
Ils sont mauvais
travailleurs aujourd'hui. T'as bien travaillé,
ouais.
Bravo. Marion, t'as travaillé? Non, t'es pas dans le Kikadi.
Non,
toi,
mais de toute façon, je ne connais pas les règles de ce jeu. Je n'arrive pas à comprendre ce jeu. Donc, c'est plus sûr. Je ne suis jamais dans la dernière heure, de toute façon.
Il n'y a plus vraiment de règles.
Non, mais attends. Déjà, dans les jeux du sport, on a été quand même capable de me sortir Danse avec les stars et je ne sais pas quelle autre question. Donc là, au bout d'un moment, je n'y arrive plus.
Laissez-moi
sur le tennis, j'en suis.
Il y a Eric, ça fait 15 ans qu'il le fait,
et
il a toujours pas compris.
Allez, tout de suite.
Je m'en vais.
Arthur Fils, t'en penses quoi, toi, Marion?
Arthur Fils, c'est la promesse du tennis français.
On est la risée de toute la France, on déconne.
Le plus jeune joueur du top 50 mondial.
Et après, de toute façon, devant les grands champions, comme avec Novak, il va s'aplater comme une crêpe.
Derrière ses apparentes certitudes se cache parfois de la nervosité.
Ce gars, il est payé 300 000 balles par mois, il n'est pas capable de tirer un pénalty contre un gardien de Ligue 2.
Une ascension fulgurante grâce à 2 demi-finales et un premier titre à 18 ans.
Là, j'ai l'impression qu'il est râpé. Si tu me dis, on va faire un tournoi, on va faire un grand chelem, la prochaine à Wimbledon.
Le rookie du circuit ne perd pas de temps.
Tu vas affronter aujourd'hui ton cousin français, Arthur
Rinderschnarch.
Arthur Fils débarqué sur le circuit, disait vouloir être numéro 1 mondial et gagner un grand chelem en moins de 5 ans.
Non, mais ça, c'est typiquement les joueurs qui savent pas jouer et qui disent des trucs pareils.
Et Moutou, un point commun avec Stallone. Pourquoi? Parce qu'il va peut-être être rookie. Il va peut-être être rookie.
Marion Bartoli, il va te régler le problème.
Bon, alors avant de démarrer quand même, Denis, oui. L'autre Arthur Parr.
Non, je
savais que t'allais me le faire.
Arthur,
allez,
Rinderschnarch.
Vas-y, il l'a jamais trouvé.
C'est une
jamais trouvé.
Ah, je savais, en plus je réponds.
Il cherche, mais qui cherche, trouve.
Denis, allez, allez, deuxième tour.
Oui, Rinderknecht.
C'est dramatique.
C'est mieux là.
Non,
c'est mieux. C'est mieux.
Non, c'est mieux aussi.
Ah, c'est mieux.
Allez, on encourage. On encourage, c'est mieux. Donc, on y va. Alors, pourquoi on parle tennis aujourd'hui? Parce que c'est le début de la saison sur terre battue. Pour une fois, on a un peu d'espoir pour le tennis français, mais même à Roland-Garros. Donc, on est content. On se souvient évidemment de Loïs Boisson l'an dernier. Et puis, chez les hommes, il y a un homme en forme, c'est Arthur Fils. Le problème d'Arthur Fils, c'est qu'après un match extraordinaire face à Tommy Paul à Miami, il a craqué en demi-finale contre l'EHK. Et Vincent pense qu'il ne va pas casser la baraque comme ses prédécesseurs, qu'il ne peut pas aller au bout et gagner un grand chelem. Et bien Marion Bartoli, oui, règle le problème sur RMC. On va quand même mettre le focus sur les perfs d'Arthur Fils avec Anthony Reich. Salut Anthony.
Bonjour à tous.
Début de saison très convaincant tout de même. Hein.
Oui, après 6 mois d'absence dû à cette fracture de fatigue au dos, et bien Fils est donc revenu sur le circuit après l'Open d'Australie. Et c'est un comeback qui a marqué les esprits après un premier quart de finale à Montpellier. Il s'est hissé en finale à Doha, puis il a réalisé une très belle tournée américaine avec un quart à Indian Wells. C'est cette demi-finale donc à Miami, Pierrot. Il est désormais 8e à la race, ce classement calculé sur les performances de la saison en cours. Et ce ne sont pas ses premiers coups d'éclat, évidemment. L'ancien 14e mondial avait déjà performé par le passé avec 3 quarts de finale consécutifs en Masters 1000, dont un à Monte Carlo en 2025 et 2 titres en ATP 500, les As Pro 500, Vincent, en 2024 à Hambourg, en s'imposant face à Alexander Zverev et à Tokyo face à Hugo Humbert.
C'est quand même des références. Vincent, il y a quand même, bon, je sais pas si tu as changé d'avis depuis sa demi-finale qui nous a tous déçus, mais il y a quand même un garçon là, il y a quand même un champion.
Non, mais si c'est pour me dire, Pierrot, que c'est un beau joueur de tennis, c'est un beau joueur de tennis. On en a plein de beaux joueurs de tennis. C'est un beau joueur de tennis, un de plus. Est-ce que c'est un champion? Un grand champion. Alors si tu me dis de gagner des As Pro ou 1500, c'est bien, t'es un champion. Est-ce qu'il va gagner, est-ce qu'il, comme la petite Bartole, est-ce qu'il va gagner Wimbledon? Voilà, est-ce qu'il va gagner Roland-Garros? Est-ce qu'il va gagner Flushing Meadows? Voilà, wow. Tu vois tout ça. Voilà, non mais je me pose, est-ce qu'il va se hisser avec les garçons de son âge, comme Alcaraz, comme Sinner, comme les meilleurs? Parce qu'en vérité, maintenant, ça fait 45 ans que le pauvre, il serait avec nous, tu vois, Yannick, il serait encore en vie. Il nous en parlerait de sa victoire
à
Roland Garros. Mais bon, et, tu vois, ce que je veux te dire, c'est qu'à bout d'un moment, on veut un champion. On en a eu des très bons, ils sont très bons. C'est bien sûr que c'est des grands champions. Mais le champion, ben c'est voilà,
parce que
tu crois que moi c'est mais oui ça m'intéresse au tennis, c'est un sport individuel, il te faut un boxe, il te faut le champion du monde au tennis, il te faut un mec qui remporte un tournoi du Grand Chelem. On t'en demande pas 50, on t'en demande un et des As Pro 1000 et tout ça, et on te suivant, on applaudit, on dit, oh le brave passe pour 500 à Vichy, oh oui il a gagné. on s'en fout
voilà,
voilà, tu comprends ce que je veux te dire. On veut, c'est comme je te disais, le tournoi c'est super, le tournoi qu'on a fait avec l'équipe de France, mais un Grand Chelem,
c'est une star, il a gagné des Master 1000.
Alors si tu veux,
il a gagné des Coupes Davis,
pour être un peu plus près des étoiles. Au jardin de lumière et d'argent, il faut gagner Wimbledon, il faut gagner Roland Garros, il faut, et je fais pas ça parce qu'il y a la petite, tu connais mon avis là-dessus, ça
oui,
fait
c'est pour ça qu'on a demandé
je
à Marion
toujours
de
dit,
régler le problème.
Je te l'ai toujours dit, j'ai du mal. Et voilà. Alors après, bien entendu, que le type de toute la génération, les mousquetons qu'on a eu, eh bien, ils étaient bons. Bien sûr qu'ils étaient bons, les 4 mousquetons. Mais il manque un truc.
Alors après, on peut prendre étape par étape déjà. Perdre contre l'EHK en demi, quand tu as battu Tommy Paul dans un match extraordinaire en quart, est-ce que tu es déçu, Marion, quand tu vois ça?
Moi, je suis déçu.
Voilà,
c'était prévisible.
Toi, t'es déçu,
c'était prévisible. Et pour être honnête, alors, j'avais pas anticipé une défaite aussi sèche parce que le score était extrêmement sévère.
6-2.
Mais je savais que pour Arthur, ça serait extrêmement compliqué pour lui de rebondir pour une simple raison, c'est que ça a été évoqué dans le sujet. La période d'arrêt pour lui a été énorme. Et Toronto, franchement, je le compte même pas comme un tournoi de reprise parce qu'il avait eu quasiment aucun entraînement auparavant. Il est arrivé, il a fait à peine un match, il a fait forfait directement derrière. Donc sa blessure, en fait, il la traîne depuis Roland-Garros. Donc ça fait 2 tiers de saison en moins l'année dernière. Après ça, il a eu énormément d'enchaînements puisqu'il a raté tous les tournois en Australie, dont l'Open d'Australie. Et que donc, il n'a fait qu'enchaîner derrière des tournois. Arrivé après un match qui est aussi poussé dans sa dramaturgie que celui contre Tommy Paul, parce qu'il le remporte, c'est au troisième, mais au-delà de ça, il n'y a eu aucun break pendant tout le match. Le match a été joué sur quelques points. Il avait quatre balles de match consécutives à sauver. Il arrive sur le central de Miami avec tout le public américain qui était en folie à le remporter. Quand t'as pas fait de match à haute intensité comme ceci depuis très longtemps et que tu les as pas enchaînés, c'est évident que la redescente derrière, elle va être très brutale, tout simplement parce qu'il faut se réhabituer à tout ça et que ça, ça prend du temps. Moi, ce qui me plaît énormément dans son évolution actuelle, c'est qu'il a une prise de conscience des défauts qu'il avait auparavant, qui pour moi, effectivement, s'il continuait dans ces défauts-là, l'aurait empêché d'aller gagner. Par exemple, je le trouvais trop lourd sur le terrain. Il le sait, il a fait un travail énorme en termes d'affûtage. Il a perdu 7 kilos uniquement que de gras, parce que bien évidemment, il faut garder la masse musculaire. Il a.
Là, il a autant de gras que ça à perdre.
Oui, bien sûr. Il y a des morphologies comme ça de joueurs qui sont plus lourds que d'autres, qui sont plus massifs. Il a engagé un chef cuisinier qui voyage avec lui, qui lui prépare ses plats, donc il fait des sacrifices importants. Il va pas au restaurant pour pas manger une nourriture qu'il a pas préparée par lui-même. Il y a un nutritionniste qui lui comptait le nombre des calories qu'il devait manger par jour. Pendant la période où il a pu reprendre ses entraînements, je vais continuer parce que si je m'arrête à chaque blague, je vais pas y arriver.
Excusez-moi.
Il s'est entraîné entre 10 et 11 heures par jour dans toute sa période d'entraînement quand il était en Allemagne. Je pense pas voir très peu de joueurs, même lorsqu'ils sont en période d'entraînement, qui sont envoyés des volumes pareils. Parce qu'il avait besoin de ce volume-là pour reprendre la caisse physique. Il faut se rendre compte aujourd'hui.
Je change d'avis complètement.
J'ai eu la chance d'être effectivement en bord de terrain pour faire la fin du tournoi de Miami. L'impact physique que Sinner vous met dans un match, l'HK d'ailleurs en a fait malheureusement les frais pour lui en finale, il est colossal. Donc si vous n'êtes pas prêt physiquement à encaisser ça, bien évidemment que d'aller chercher sur un tournoi du Grand Chelem avec des matchs qui peuvent être extrêmement longs, on se souvient de la finale de Roland-Garros l'année dernière, ça ne va pas s'inventer
Sinner,
du jour au lendemain.
Il domine physiquement tant que ça les meilleurs mondiaux.
Ah oui.
Ouais.
Mais c'est pas l'impact un problème mental physique, à un moment donné aussi.
Non, c'est un problème d'être en capacité d'avoir la préparation nécessaire pour pouvoir tenir sur une distance qui va être extrêmement longue, parce que sur un tournoi du Grand Chelem, ça va jouer sur la longueur. Vous n'allez pas mettre 3-7 à 0 à ce genre de joueur, c'est impossible. Ben oui. Mmh. Donc on l'a vu pour Novak Djokovic, pour battre Yannick Sinner, ça a pris quoi ? Plus de 5h30, 5h20, la demi-finale. Donc ça va prendre énormément de temps, faut être prêt à encaisser ça. Donc pour moi, est-ce qu'il va le faire demain ? Pour répondre à ta question, non. En revanche, est-ce qu'il met tous les ingrédients de son côté pour y arriver un jour ? Oui, après, je n'ai pas la réponse. Je ne peux pas t'anticiper ce que ça va faire dans 5 ou 6 ans.
Au prix où on te casque, tu nous réponds. Ouais.
Mais ce que je te dis, c'est que moi, personne n'aurait mis une pièce sur moi pour gagner un grand chelem un jour. Et pourtant, je l'ai fait sans perdre un set.
Oui, mais j'ai une question, Marion. Ça, c'est un argument. Est-ce qu'il a le jeu pour gagner un grand chelem ? Est-ce qu'on peut le savoir aujourd'hui ?
Il a le jeu, il a les armes, il a le charisme, en tout cas la personnalité nécessaire pour rentrer sur un court plein devant un Alcaraz ou un Sinner et d'aller les chercher, ça oui clairement. En revanche, que pour l'instant il y a encore un gap tennistique, surtout en tournoi du Grand Chelem par rapport à ces deux grands champions, oui il le sait, mais ce que j'aime bien dans son attitude, c'est qu'il met tout en place pour essayer que le gap soit de moins en moins important et qu'il se resserre. Et pour terminer là-dessus, parce que j'en terminerai là-dessus, un autre joueur qui était un très bon joueur, qui s'appelait Karen Khachanov, a eu exactement la même blessure qu'Arthur Fils. Il a mis beaucoup plus de temps pour récupérer et ça a été très très difficile pour lui après ça d'enchaîner des bons résultats. Déjà pour Arthur Fils aujourd'hui de faire demi-finale d'un Master 1000, qui est le meilleur résultat en Master 1000 pour lui, son meilleur résultat jusqu'à présent c'était quart de finale, il revient d'une blessure, il fait encore mieux. Moi, je dis que tous les signes sont positifs et qu'effectivement, j'aime beaucoup ce joueur par sa capacité à se remettre en question et à essayer de progresser.
Vincent, t'allais poser une question.
Non, j'ai dit, s'il gagne un grand chelem, au moins j'aurai l'occasion de le voir dans la maison de vacances de Denis. Quand il viendra en noir, il le mettra lui.
Voilà, merci. Oui, il faut gagner.
Voilà, ah, bah, il faut gagner. Voilà, Mars, ça fait 30 ans qu'on se le cire.
Les champions passent chez Denis Charvet. Voilà,
tous les champions passent
chez Denis. C'est Yannick Noir.
Du maire de Yaoundé.
D'accord.
Le maire de Yaoundé, bien sûr.
Après, juste avant de te donner la parole, Denis, tu disais sur le plan tennistique, il y a encore un gap avec les deux. Sur quel coup précis, par exemple, il doit progresser ?
Tu vois, ils sont joués en finale de Doha contre Alcaraz. Pardon, tu as vu le résultat. Bon, Alcaraz, il a cette capacité de force de frappe instantanée, comme à Sinner d'ailleurs, où il prend le jeu à son compte tout de suite, il vous met tout de suite en secteur défensif, et si vous n'êtes pas capable de répondre sur les premiers coups, c'est extrêmement compliqué. T'es pris à la gorge tout de suite, et t'as plus aucun temps de réagir. Mais pour ça, pour arriver à contrer ce genre de joueur, il faut avoir une capacité de vitesse de déplacement qui est énorme. Ce qu'a Zverev, ce qu'a aussi
Donc
Djokovic.
C'est plus de la vitesse de déplacement que de la technique pure.
Exactement. C'est pour ça que la partie affûtage était essentielle.
Il a accéléré, il a augmenté sa vitesse.
T'as 7 kilos de moins, tu vas quand même plus vite sur le terrain. Donc, il est pour moi, il fait les bonnes choses. Laissez-lui un tout petit peu de temps. Et je suis persuadée que cette année, Roland Garros, il va faire quelque chose de beau et qu'il va faire sourire le public.
Denis, écoute, non, mais moi, ce garçon, il m'épate. Alors après, de dire que ça va être un grand champion et qu'il va gagner un grand chelem.
Il n'est pas encore Arcachon dans ta maison.
Mais personne n'est capable de le dire. Même toi, Marion, il a tous les atouts, il a toutes les, comment dire, les capacités à aller chercher le Graal. Mais j'ai l'impression quand même, alors, il me bluffe par sa maturité. J'ai l'impression qu'à 21 ans, il est déjà mature. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Il déclarait après la demi-finale, il dit c'est juste que mentalement, je dois trouver quelque chose pour m'aider à donner plus. Dans ce genre de match important, je dois pouvoir trouver l'énergie. Donc il est conscient quand même qu'il y a encore ce manque-là chez lui. Donc c'est peut-être pas physiquement, c'est peut-être aussi mentalement qu'il doit, dans les moments forts, trouver cette énergie-là.
Mais en fait, là, si tu veux, pour arriver à faire cet enchaînement-là, il n'a pas assez eu de semaines de match pour
de préparation.
Faire... De match.
Ouais.
Parce qu'en fait, le match te prend bien sûr l'énergie physique, mais surtout te prend une énorme énergie mentale. L'énergie mentale, elle est colossale, même plus qu'au-delà de l'énergie physique. Mmh. Et pour arriver à rebondir, il faut avoir l'habitude de le faire. Regarde, Sinner, ça fait 34 sets consécutifs qu'il gagne en Master 1000. Il a gagné le Rolex Paris Masters sans perdre un set, Indian Wells sans perdre un set, Miami sans perdre un set. Pour lui, c'est une routine. La finale, c'est une routine. La demi, c'est une routine. Pour arriver là-dedans, il faut arriver à les enchaîner, les performances.
Juste sur la valeur étalon décrétée par Vincent Moscato, c'est son droit. Il faut gagner un grand chelem, sinon il manque énormément de choses. Je vais vous citer des joueurs, très grands joueurs. Marcelo Rios, Correa, David Ferrer, Guillermo Coria, Soderling, Thomas Berdych.
Ce n'est pas des stars.
Là-dessus, je suis d'accord.
Mais ce sont des grands champions de tennis. Marcelo Rios a marqué l'histoire du tennis quand même.
Il n'y a pas de débat.
Correa, moi je pensais qu'il avait gagné un tournoi du Grand Chelem, Correa. Quand j'ai vu la ligne, je me suis dit,
c'est pas possible. Toi, le bloc, t'arrives là-dedans, après ça nous impressionnait avec des stats, c'est bon.
Ça veut dire, avec votre théorie, il n'y a que deux champions. Oui, il y a deux champions sur 20 ans.
Oui, bien sûr.
Non, mais arrête, le bloc. Tu t'empêches, Mario, de parler pour le sortir tes saucisses.
Si on écoute la théorie de Vincent, c'est Federer, Nadal, après tous les autres, c'est Djoko, bien sûr.
C'est le Suisse, c'est Wawrinka.
T'as Wawrinka, t'as Murray, t'as Chili.
T'as Murray, t'as tous ces mecs-là. Les mecs qui gagnent des grands chelems, c'est indubitable.
Tu peux marquer une époque, tous ces joueurs-là, ils ont
gagné. Écoute, Mario, ce qu'elle te dit.
Laurent Serra,
Florent Serra.
C'est indubitable là-dessus, et tu peux demander à tous les autres joueurs, on te répondra tous pareil.
Il y a une la valeur
est à nous dans le tennis, c'est de gagner un tournoi du Grand Chelem.
Ça fait fête, Mario. Tu vois la sortie.
Denis, toi, t'es un fan de tennis, tu vas Roland tout le temps. Tu aurais, là, de but en blanc, si on fait un petit quiz, tu aurais pensé que Correa, il a jamais gagné un tournoi du Grand Chelem.
Oui.
Bah, il le savait, Denis.
Il m'a amené voir un match de tennis.
Sans parler de Nadal, si on parle d'espagnol, tu mets Bruguera. Tu sais bien que Bruguera est au-dessus de Correa.
Oui, Bruguera, il a gagné.
Donc, et on ne te parle même pas de Rafa Nadal qui a gagné 14 fois Roland.
Le blond, il est arrivé avec sa stat, il pensait être impressionné.
Oui,
Par contre,
depuis qu'il est maire, il me répond plus. Je l'ai invité au Moscato Show, il me répond plus. Donc,
c'est normal.
Serge, tu nous écoutes, pourquoi tu vas me tirer l'oreille?
Moi, je vais te dire, Serge, si tu nous écoutes, il me faut 500 mètres carrés de construire à bord de plage.
Et de place pour Céline Dion,
parce qu'on a que là. En plus, lui, il doit les avoir, les places à Céline Dion. Il a toujours des mecs qui rôdent par là. Écoute-moi, tu vois, on est d'accord.
Vincent
Moscato, donc sceptique sur Arthur Fils, c'est Mario Bartoli qui a le problème.
Denis m'amène voir un match. Le père d'Arthur Fils, Gaston, non, comment il s'appelle, Fils.
Non, Gaël, mon fils.
Contre petit argenté, c'était Bernardo, le mec d'Anzoro. Écoute-moi, aucun des deux avait gagné un grand chelem. Au bout de demi-heure, je me suis cassé.
Alors, on accueille Ilaï au 32-16.
Ah,
Ilaï, quand on parle tennis, souvent il appelle.
Fidèle, Ilaï.
Ilaï, quoi.
Bonjour à tous, salut Marion.
Il aille de Montauban dans le Tarn-et-Garonne.
J'adore le saucisson.
Il aille, au ton de ta voix, on sait que t'es sérieux sur le sujet là.
Non, mais il y a trop de sujets là. Je sais plus sur quel sujet il faut réagir. Alors, allez, je fais un petit mix. D'abord, je n'ai pas longtemps parce qu'il y a Céline Dion qui doit m'appeler. Mais deuxièmement, non, pour être sérieux, Arthur Fils, pour moi, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Je pense qu'il faut pas. Il a fait une erreur. Je pense que Marion sera d'accord avec moi. Vous l'avez peut-être dit, c'est qu'il a célébré un peu trop tôt à Miami. C'est-à-dire qu'on a vu des images de grosses célébrations à la fin de son quart de finale, qui était monumentale avec les 4 balles de match sauvées. Mais quand on célèbre aussi fort, il y a une redescente et elle s'est faite. C'était trop vite. En fait, c'était un peu trop tôt. Mais bon, c'est juste. C'est un détail. Ça se règle hyper facilement. Et aussi sur la finale à
Milaï, on va pas attribuer son non match contre les HK à une célébration un peu trop exubérante.
Si on peut. Et alors, excusez-moi, mais si vous regardez dans le passé des grosses victoires de joueurs et notamment votre consultant Julien Beneteau qui tape Roger Federer,
on parle
qui lui met 2-2 à Bercy, le lendemain il arrive plus à jouer en fait parce qu'il est tellement sur son nuage, et en fait Arthur il est un peu sur son nuage parce que et c'est justifié parce que c'est incroyable ce qu'il a fait, mais c'est très dur de pas célébrer trop tôt, c'est très dur de rester dans le truc, de rester concentré, se dire j'ai encore rien fait, etc. Pour ce qui est de sa finale contre Alcaraz, il a joué un avion à Doha. Alcaraz, il a joué ce match là je sais pas si vous l'avez tous vu, mais c'était 50 minutes, il a fait que des coups gagnants et il y a rien à faire. Ça peut être Arthur Fils à 150% de sa forme.
Il était sur sa lancée de l'Open d'Australie, c'est son niveau habituel pour Alcaraz.
Ah, c'est incroyable. Ouais, enfin, sur la finale, il a quand même, parce que durant le tournoi, il a perdu un set, mais dans la finale, il a joué un avion. Bref, Arthur Fils peut définitivement faire quelque chose en grand chelem. Il n'y a aucun
doute là-dessus. Mais quand tu dis faire quelque chose, c'est faire une demi ou c'est gagner un grand chelem. Pour toi, définitivement, il peut gagner un grand chelem.
Oui, définitivement.
Okay, Roland, t'es sûr.
En revanche, je voudrais juste dire un truc, c'est que gagner un grand chelem n'est pas signe d'être un champion. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Vincent, et pour la bonne et simple raison que ça voudrait dire qu'il n'y a eu que 3 bons joueurs sur les 25 dernières années.
C'est l'inverse que dit Vincent, mais on a compris, oui. La victoire en grand chelem fait de toi un champion. Et c'est avec ça que tu n'es pas d'accord, toi.
Pas du tout.
Donne-nous des exemples, comme Adrien tout à l'heure. On va voir comment tu vas être accueilli.
Marcelo Rios.
Attends, il parle de Tsonga, il parle.
Tsonga, par exemple. Tsonga, c'est un des seuls joueurs durant la grosse période de domination qui, en dehors de Djokovic, Nadal, Federer, gagne 2 Masters 1000. Et Davidenko, ce sont les 2 seuls mecs.
Il a gagné Master 1000 aussi, il a été numéro 1 mondial, il a gagné 2 médailles d'or au JO.
Il a du temps libre, Adrien, crois-moi, parle avec lui, téléphonez-vous.
Pas tous les jours.
Murray, je suis d'accord, mais Murray a gagné des grands chelems. Je parle de mecs qui n'ont jamais gagné des grands chelems.
Bien sûr. C'est des magnifiques joueurs de tennis, ce sont des excellents joueurs de tennis, ce sont des champions, mais tu peux pas oublier qu'un vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem, c'est juste pas la même catégorie.
Toi, ça sert à quoi de gagner un Grand Chelem?
Ça sert à classer
un joueur parmi les autres, un qui est capable de gagner un Grand Chelem. Voilà, c'est comme si tu me dis, il n'y a pas que des mecs qui ont gagné le Tour de France qui sont des bons cyclistes. T'as raison, probablement.
Je dis pas.
Mais quand t'as gagné le Tour, ben t'es un grand.
Non, Vincent, ça marche pas.
Mais le débat, c'est entre un très bon et un champion, c'est tout.
C'est qui le plus fort, c'est qui le plus fort de manière en terrain sec, comme on dit dans le rugby, c'est qui le plus fort, Wawrinka ou Tsonga? Là, j'ai une dernière question très sérieuse pour Vincent Moscato. Est-ce que tu penses que si Arthur Fils imagine exploit là, il y a des blessés, il gagne Roland Garros cette année, ça peut arriver. C'est dans les rêves les plus fous. Est-ce que Yannick Noah sera content?
Écoute-moi, à Yaoundé là-bas, il s'enfonce une pagaie dans le joufflu. Je te le dis. Il meurt à l'instant. Il dit 45 ans de règne. Allez, tout le monde, où est la pirogue? Là-bas, allez, la pagaie la plus longue. Allez.
On fera pas mieux, donc on arrête là. Merci, Ilaï. Merci, Anthony.
C'est bonne la question, Vincent.
Oui, très bonne.
Très bonne. C'est la meilleure que j'ai trouvée sur le débat de tennis. T'as été nul, autrement.
Pardon, j'avais la tête ailleurs.
Bon, dans un instant. La Coupe du Monde de foot, on a tous les qualifiés, notamment le dernier adversaire de l'équipe de France. A tout de suite.
Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
7h32, le Super Moscato Show. On y revient au Mastic. Marion Bartoli est avec nous, Denis Charvet, Adrien Gouin, Pierrot. Fais-moi claquer le programme
dans une demi-heure. Alors, dans une demi-heure, on va chercher un président pour l'Olympique de Marseille. Pour être un bon président de l'OM, est-ce qu'il faut forcément venir du foot? Je vous encourage à aller télécharger notre débat de tennis qu'on vient de terminer à propos d'Arthur Fils, qui était d'excellente facture, dans lequel on a beaucoup parlé de tennis et qui s'est terminé avec une pagaie au mauvais endroit pour Yannick Noah. Voilà, mais il y avait un peu de tout, il y avait du fond.
Mais de joie.
Non, Arthur cherche, là, celle-là va me rester.
Je vous ai apporté des belles stats aussi.
Très belle. Oui, il y avait les stats d'Adrien qu'on fait.
C'est mon métier, journaliste.
Les stats du plomb, le plomb
excellent aujourd'hui.
C'est une poitrine. On devrait lui faire une chronique au niveau du tennis.
Ça, c'est sur rmcsport.fr que vous pouvez le télécharger. On reparle de la Coupe du Monde de foot.
RMC, le Mosca.
On va faire le point sur les derniers qualifiés. Dans la zone Europe, donc, ont passé les barrages la Suède, la Turquie, la République tchèque et la Bosnie-Herzégovine contre l'Italie. On y reviendra tout à l'heure à 17h30. Autre qualifié de dernière minute, la République démocratique du Congo, qui a sorti la Jamaïque en prolongation à 1-0. Et puis la France, donc, connaît son dernier adversaire. Ce sera l'Irak, qui a battu la Bolivie. Ils n'étaient pas forcément favoris, les Irakiens, mais ils ont gagné contre la Bolivie.
Faut se méfier, l'Irak, Pierron.
Je pense que ça devrait pas être la plus grosse menace pour l'équipe de France. Je vous redonne le groupe de la France. Ce sera dans l'ordre, hein. France-Sénégal, France-Irak en deuxième et France-Norvège en troisième. Si la logique est respectée, alors si les Bleus terminaient premiers, on affronterait un troisième de groupe en 16e. Donc là, on a du mal à se projeter. En toute logique, le premier du groupe de l'Allemagne en 8e, c'est-à-dire Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur.
Ça peut être l'Allemagne
dès les huitièmes.
Dès les huitièmes, l'Allemagne.
L'Allemagne dès les huitièmes.
On saura très vite.
Et de toute façon.
Au bout d'un moment, tu es obligé de rencontrer les meilleurs. Tu ne peux pas tomber sur l'Irak et la Gambinini.
La Gambinini, ils sont partout quand même. Alors, de toute façon, si jamais on terminait deuxième de ce groupe, qui est quand même un des plus denses, même si ça ne fait peut-être pas peur sur le papier, mais quand tu vas voir les autres groupes, celui de la France, il est quand même assez relevé. Si on terminait deuxième, de toute façon, on affronterait dès les 16e de finale le deuxième de ce même groupe E, celui de l'Allemagne. Ça pourrait être l'Équateur ou la Côte d'Ivoire, par exemple. Et ensuite, soit le Brésil, soit le Maroc, soit les Pays-Bas, soit le Japon en 8e. Donc quoi qu'il arrive, quelle que soit la voie, je pense que dès les 8e, ça devrait être sérieux.
Sérieux. Ça devrait être sérieux, mais bon, c'est quand même. On a quand même une équipe de fous là, quand même. Donc, tu vas te dire, t'es obligé de. T'es obligé de passer par là. Tu vas pas aller en finale. Oui, mais tu vas pas aller en finale.
Le 8e était plus facile.
Oui, 8e et un quart.
Mais qu'est-ce qui nous fait le plus peur en 8e, Brésil ou Allemagne?
Ah, l'Allemagne.
Je pense que le Brésil, ils ont rien.
Ah, moins que Neymar, rien. Mais bon.
Romario. Une phrase incroyable. Moi, j'étais heureux parce que avec Denis, on est complètement débiles dès qu'on voit Neymar. Il a dit un truc incroyable. Romario, énorme respect, un des plus grands joueurs de l'histoire du Brésil. Il a dit Vinicius, c'est pas un joueur dont tu te dis que s'il est à son meilleur niveau, tu vas gagner la Coupe du Monde. Alors que Neymar, s'il est à son meilleur niveau, tu te dis que tu peux gagner la Coupe du Monde.
Exactement.
Non, mais Vinicius, quand même, un des meilleurs attaquants du monde actuellement.
Qu'est-ce qu'il connaît, Romario, ça compte.
Romario, ça n'est plus.
C'est le plan qui t'a poussé à le dire, ça.
Là-dessus, il a raison.
J'ai quand même été étonné de l'image qu'il a de Vinicius, Romario, quand même. Vinicius, il est énorme.
C'est un très beau joueur, mais c'est
quand même. Mais il ne fait pas gagner.
Quand les mecs parlent de Neymar, ils parlent de ça comme un mec incroyable. Donc Vinicius, moi j'y veux bien, mais j'en entends parler. C'est un très beau joueur, Vinicius.
C'est un très grand joueur, c'est pas un bon joueur.
Mais C'est le star, mais c'est pas Neymar.
Mais c'est pas au niveau Neymar.
Mais voilà, c'est ce que je te dis. Je te dis pas que c'est un très grand joueur. Vinicius, c'est le sous-fifre à côté de Neymar.
Voilà, c'est réglé.
Bon, et puis pour finir, donc, je vous ai dit, si jamais on finit deuxième, il y a plusieurs possibilités en huitième, Brésil, Maroc, Pays-Bas ou Japon. J'ajoute le Japon parce que le Japon a quand même fait une perf qu'il faut saluer hier, même si c'était un match amical. Le Japon a battu l'Angleterre. C'est la première équipe asiatique qui bat l'Angleterre dans l'histoire du football. Donc, c'est quand même notable. L'Angleterre qu'on présente comme un des outsiders sur la Coupe du Monde.
Deux, trois titulaires dans les
Anglais. Ça fait 30 ans qu'ils font Nib. C'est incroyable ça. Ils font Nib depuis 30 ans, donc les Anglais.
Depuis 66. Plus, depuis 60 ans, ouais.
Bikin, c'était Kane.
Cette équipe de
Paris. Oui, Harry Kane, il n'y avait pas Bellingham. Il manquait beaucoup de monde, mais malgré tout, c'est vrai que les Anglais, c'est un mystère.
Même quand ils sont au complet, c'est arrivé quand même. C'est pas terrible, quoi. Owen, je m'en rappelle, Owen, il disait que ça allait être le meilleur joueur du monde quand c'était.
Il a eu le ballon d'or.
Il a eu le ballon d'or. Non,
tu t'en souviens qu'il avait eu le ballon d'or, Michael Owen, Vincent?
Michael Owen.
Ah, bah oui.
Ouais. Bah, heureusement que tu
t'en souviens. Non, pour terminer.
Monsieur Stade, s'il vous plaît.
Pour terminer, deux secondes sur Vinicius et Neymar. Neymar, c'est quand même le meilleur buteur de la sélection brésilienne. Et Vini en a mis 7.
Oui, après, attention, il est pas.
Oui, mais non, mais il y a quand même une différence de joueur qui est énorme.
Évidemment, évidemment. Mais aujourd'hui, quand même, Vinicius fait partie des meilleurs attaquants du monde.
Non, mais bien sûr, Pierrot, mais des meilleurs attaquants. Nous, on en a 4, des meilleurs. 5, 6 meilleurs attaquants du monde. Alors, ça veut rien dire, les meilleurs attaquants du monde.
Pour te donner envie de suivre cette Coupe du monde sur RMC, Vincent, je vais te donner quelques compositions de groupe maintenant qu'on les connaît. Il y a quand même des trucs surprenants. parce qu'il y a moins de densité, évidemment, à 48. Donc, on a un groupe. Celui dans lequel aurait été balancé l'Italie, eh ben, ça sera Canada, Suisse, Qatar et Bosnie. Ok, c'est jouable pour tout le monde. Oui. On a un autre groupe avec États-Unis, Paraguay, Australie et Turquie. C'est pas très dense non plus. Un peu mieux avec la Belgique, mais la Belgique donc affrontera Iran, Égypte et Nouvelle-Zélande.
Facile.
Pas très relevé. Et puis enfin, j'en ai trouvé un autre: Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud et République Tchèque. Alors, c'est bien d'ouvrir, mais on est à la limite là, non? Parce que après, t'as des troisièmes de groupe qui sortent de ça, pour aller en 16e de finale. Oui.
Ah, puis l'Iran, ils ont demandé des matchs amicaux à la maison, mais personne ne veut y aller.
Pour l'instant, l'Iran fait la Coupe du Monde.
On a le groupe le plus sexy. Peut-être pas le plus dur, mais le plus sexy. On a Hollande, on a le Sénégal qui est champion ou pas champion d'Afrique.
Oui.
C'est pas mal quand même.
Moi, je gagne, c'est un beau joueur.
Non, mais c'est un beau joueur. Non, mais il y a de quoi. Non, mais attends, ça sera pas facile.
Norvège, c'est une bonne équipe.
Tu vas batailler.
On a un groupe intéressant, nous, mais pas si facile que ça.
Ouais, mais t'es au-dessus, quoi.
T'es au-dessus,
c'est des contre-performances. Quand tu fais un mauvais match, si tu fais un match nul, c'est une contre-perf. Voilà, tu peux la faire. Tu peux faire un match nul pendant les matchs de poule. Mais bon, t'es au-dessus largement, quand même, de tous.
Allez, on zappe la Coupe du Monde de foot. On va dire un mot de rugby, puisque c'est un week-end de Champions Cup, avec les huitièmes de finale. Et notamment, donc, le tenant du titre, Bordeaux, qui affronte Leicester dimanche à 16h. Question posée il y a quelques minutes à Yannick Bru. Est-ce que l'expérience du champion en titre est un réel atout avant d'aborder ses phases finales?
Non, vraiment, pas du tout, parce que voilà, mon expérience me fait dire que, comme en bourse, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. L'année dernière, on en a beaucoup parlé cette année, beaucoup de choses étaient alignées pour nous permettre ce qui s'est passé. Voilà, cette année, c'est une année qui est plus challengeante depuis le premier jour, donc rien ne sera pareil. On se prépare à affronter le futur, c'est-à-dire Leicester, avec beaucoup, je pense, de lucidité sur les forces et les failles de cette équipe.
Non, mais c'est clair qu'il a un truc.
Il a dû morfler sur les bitcoins ou un truc comme ça. Il a dû faire ou sur l'or. Il a dû prendre 30% dans la semaine. Il a morflé.
Il a besoin de se vider.
Incroyable cette comparaison. Qu'est-ce que d'où ça vient?
Je sais pas. Non, mais il a un peu raison. Moi, ces trucs d'expérience là, d'une année sur l'autre, j'y crois pas beaucoup, quoi. Ça t'aide pas énormément d'avoir gagné les deux.
Non, mais il y a du vécu. Moi, je pense qu'il y a surtout le vécu. Après, l'expérience, ça va rien dire, tu vois.
Sur une année sur l'autre, l'expérience, t'as gagné l'an dernier parce que t'as fait, t'étais bien, mais je pense pas que ça te serve énormément. Tu vois,
ils font quand même partie des favoris pour le coup.
Oui, non, bien sûr. Oui, non, mais attention, Bordeaux, ils font même partie du seul favori au-delà du Stade Toulousain. à être champion de France derrière le Stade Toulousain. C'est les seuls qui pourraient peut-être inquiéter le Stade Toulousain. Et c'est les seuls qui et c'est il fait partie des deux trois qui peuvent être champion d'Europe quoi, tu vois.
Il y a qui à Bordeaux, Toulouse et quoi hein, qu'est-ce qu'on rajoute?
Il y a le troisième, je le cherche, je te le dis.
Non mais il y a toujours
Northampton, c'est pas mal.
Northampton,
belle équipe.
Ouais, ils ont une équipe, il y a deux clubs anglais, non?
Northampton et puis Basque, une très très belle équipe.
Bah, il y a Bristol, attention. Il y a
Bristol, ils vont prendre 40 points au stade. Toulousain ce week-end. Non,
tu le dis. Et Northampton, ils vont où? À Castres, là?
Non, ils reçoivent Castres.
Ah bon, parce que s'ils vont à Castres avec Pollock, à Castres, à la campagne, là-bas, les mecs, ils vont me le pourrir. Ça va être à pleurer, quoi.
Comment tu le prononces, son club?
À Northampton.
Oh, bien.
Il faut mettre deux chamallows dans chaque jour.
Leicester qui affronte le bébé. Denis, le numéro 9 de Leicester, Jack Van Poo.
Je ne connais pas lui, Van Poo.
Si. Voilà. Ah, tu vois, bravo. Numéro 9 de l'Angleterre, bravo.
C'est l'heure du deuxième journal moyen sur RMC.
Dans le deuxième journal moyen, je vais vous égriner des joueurs qui n'ont pas gagné le grand chelem de tennis.
Attends, dernière précision.
Vas-y, Mario.
Joe,
oui.
Jamais tu nous écoutes.
Oui.
Tu es un immense champion, Joe, et je t'adore.
Joe Wilfried Tsonga.
Et t'as pas eu de chance, et t'as pas manqué grand chose.
Marion, voilà. Ne t'inquiète pas, Joe Wilfried Tsonga ne nous écoute pas, j'en suis certain.
Journal moyen, deuxième édition.
On a dit tellement d'horreur sur
un très bon Pascal Olmeta.
Il conduit un taxi maintenant.
Arrête.
Un nouveau Moscard. Tu sais que Joe le taxi, c'est une femme, Vincent, dans la chanson.
Je sais, elle s'appelait Joël.
Journal moyen tout de suite avec moyen. Un très bon Pascal Olmeta.
16h42, le Super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
16h47, le Super Moscato Show, bien sûr, on y revient au Mastic, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouet, deuxième édition.
La deuxième édition, allez, oui.
Sois pas mauvais, hein.
Non, je vais essayer, vous m'avez tensé. La Coupe du Monde rend déjà fou tous les acteurs du foot, les joueurs, les supporters, les observateurs. Un très joli Moscard de Pascal Olmeta, il est là Pascal, hein. Il lâche pas le morceau. Et puis 16h55, première question du Kikadi du jour. Vous écoutez RMC, c'est le 2597e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct live, en plein milieu de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le journal moyen, deuxième édition.
J'ai écouté Rotten sans flammeur avec Pascal, jingle Pascal.
Au nord, c'était les colons.
Non, Pascal, non, tu t'es trompé.
Ça, c'est extraordinaire.
Il a mis le pied en touche, Pascal. Très bon Pascal Olmeta hier dans Rotten sans flamme sur RMC à 18h. On parle des entraîneurs de l'OM. Quel est le profil idéal? Pascal raconte qu'à l'OM, il faut une voix qui porte une légende. Il a connu Franz Beckenbauer, la légende, dans le vestiaire. Et Pascal nous offre à cette occasion-là un magnifique Moscard. Vous savez, c'est une expression légèrement inversée, mélangée.
Le monsieur, je dis le monsieur, et aujourd'hui il est plus de ce monde, malheureusement, mais c'était tellement clair. Il parlait football, on bavait ses paroles.
Ah oui, d'accord. Oh. Elle est belle celle-là ou pas? Un mini replay, Pascal, parce qu'on n'y croit pas.
Elle est simple, mais
elle n'y croit pas, on la réécoute quand même.
Mais c'était tellement clair. Il parlait football, on bavait ses paroles.
Oui.
On bavait
ses paroles.
On demandera à Eric Dimeco son avis à 18h s'il bavait les paroles de Beckenbauer.
Ça fait quand même sur la liste qu'on a ces mecs de 93 quand même.
À Paris,
bon. On va en trouver un qui n'est pas couillon.
Qui, Franck Sauzé?
Je vous écoute, Pierrot.
Franck Sauzé, il a dit Vincent. Franck Sauzé, Barthez, non?
Oui, Fabien.
Marcel de Saïs.
Marcel,
il s'est relevé le niveau.
Marcel, j'étais à Toulouse à la fois, il l'embauchait à Airbus comme ingénieur.
Lolo Blanc, quand même.
Mais il n'est pas 93, Lolo, il arrive après.
Ah non, il n'est pas.
Parce que lui, il aurait relevé le niveau.
Ah oui.
Allez, retour sur le Moscato Show. Le Moscato Show d'hier. Hier, on parlait de.
Nous non plus, on n'est pas ingénieur chez Airbus, mais quand même.
Retour sur la performance de Vincent hier dans le Moscato Show. On parlait de l'Italie avec un supporter au 32-16, un passionné. Ce supporter nous parle de Barella. Et écoutez bien, Vincent sur une vanne va se sentir seul sur une petite blagounette. Pourtant, j'ai essayé de t'aider, Vincent. J'ai essayé de t'aider. Écoutez, il va même grogner, Vincent, et on a essayé de t'aider.
Même les Barella, qui pour moi, à un niveau international, quand même, je veux dire, c'est pas non plus. Il était pas là. Donc, moi, aujourd'hui, Ce que je veux dire, c'est que il faut, c'est pas qu'il faudrait, c'est qu'il faut que l'Italie s'en sorte. Parce que si elle s'en sort pas là, il peut y avoir des drames, mais des drames pas que sportifs hein, en Italie.
J'adore quand ouais, il rigole, mais il y a personne qui rigole. Et moi, je suis rigole.
Oui, personne rigole deux fois.
C'est
la blague qu'il faut remettre en question.
Oui, il faut te remettre en question.
Moi, je le trouvais très bien là-bas.
Pas de barrière, bien sûr. Allez, sans transition.
Vous l'avez compris.
Bien sûr. 16h51, les valeurs du rugby. Ah, hier nous avons découvert dans le Moscato Show que Cyril Baye, joueur du Stade Toulousain, fait partie de la tribu. Oui, une tribu que Julien découverte de Julien Cazard. La tribu des voilà-voilà.
Incroyable.
Merci Julien d'avoir trouvé cette tribu. Hier, Wilfried Templier propose un reportage sur Baye. Donc il y a trois interviews de Cyril Baye. Les voilà-voilà, c'était beaucoup dans le foot.
Oui.
Mais là, on a trouvé un beau spécimen. Le condensé, on va les compter. Cyril Baye, hier, au micro de Wilfried Templier. C'est voilà-voilà.
Tout à fait.
Après les entraînements et double de volume, voilà, c'est une grosse galère, mais bon, après voilà, on a appris à vivre avec. Voilà, c'est comme ça, mais bon. Ce qui m'a permis de faire les deux derniers mois de pouvoir enchaîner quand même quelques feuilles de match. Ce qui est dur, c'est surtout de se sentir un peu voilà, mis un peu en retrait, quoi. Tu sens aussi que voilà, que petit à petit c'est de plus en plus dur. Donc ouais, moi j'ai commencé, j'avais 18 ans et demi, 19 ans, donc voilà, c'est aussi. Des fois il faut se retourner, se dire voilà, t'as commencé, ça fait là c'est ma 14e année en pro. Voilà, des fois aussi il faut quand même s'opposer, se dire voilà, tout à fait. Qu'est-ce que tu as pu apporter au club, qu'est-ce que les gens vont retourner à toi, voilà.
Mais voilà,
c'est une virgule, c'est
bon.
En fait.
C'est beau.
C'est ça qu'on appelle un tic de langage.
C'est magnifique.
Je vous ai écouté hier, il était très émouvant.
Ouais, ses blessures. Ouais. Oui, on se moque, mais bon.
Super. On l'embrasse à Cyril parce que il est passé par des moments très durs.
Et voilà, bravo. Il y en a même dans le rugby. Sans transition, on connaît tous les qualifiés pour la Coupe du Monde de foot. On vient d'en parler. C'est un spécial Coupe du Monde.
Et je veux pas faire le nostalgique ou le vieux combattant non plus. Ah, c'était mieux avant. C'est différent. C'est comme par rapport à l'équipe de France. Ah ouais, est-ce que vous avez préféré 98 ou 2018?
Et voilà. C'est ça qu'on aime dans la Coupe du Monde, notre chien.
Je suis content parce que je vois Marion qui meurt de rire.
Tu l'épargnes pas.
Marion en plus qui est la première à défendre les champions. Ouais. Bon, ça me rassure.
La Coupe du Monde s'approche. États-Unis, Mexique, Canada et la Coupe du Monde de foot. C'est ça qui est génial dans le foot, ça rend fou. À 71 jours du coup d'envoi, le coup d'envoi le 11 juin. Les derniers barrages et les derniers matchs amicaux rendent déjà fou tous les acteurs du foot. Hier en Bosnie, à Zenica, ça va te parler Marion. Eh ben il y a un monsieur qui est très content. Il est serbe. Il n'est pas bosnien, il est serbe. Novak Djokovic est en tribune dans ce tout petit stade. Déjà, il arrive ovationné par le stade. Et puis au moment du tir au but décisif, c'est de la folie. Et on le voit célébrer comme si c'était son équipe, comme si c'était la Serbie. Djoko, fan de sport, fan de foot, Djoko, est très pote avec Dzeko, la star, le quadra de Dzeko, qui a été bon hier. Il a fait tout le match, il s'est pété l'épaule d'ailleurs. Donc Djokovic.
De foot, de basket aussi, on le voit souvent sur les matchs de l'étoile rouge de Belgrade. Il va parfois même, je crois qu'il a rencontré LeBron James à Los Angeles il y a 2 ans ou il y a 1 an. Donc il adore aller voir ce genre de match, soit de foot, de basket. Et effectivement, il est supporter, il est fan.
Il passe pas inaperçu quand il est dans un stade de Djoko. La Coupe du Monde de foot rend déjà fou, ça va te faire plaisir Pierrot, les Argentins. Mm-hmm. Hier, une scène assez folle en Argentine, après le match amical, match anodin, hein, 5-0 pour l'Argentine face à la Zambie. Eh bien, figure-toi Pierrot, que les Argentins ont peur des Français, déjà là. À 71 jours de la Coupe du Monde.
Ils ont raison.
Conférence de presse de Lionel Scaloni, le sélectionneur. Mais il est content, 5-0, les affaires courantes, Messi, les adieux, il pleure pour la 3e fois. Et puis, surprise, il y a un supporter de l'Argentine qui s'est incrusté, il a volé une accréditation, il s'est présenté dans la salle de presse. Et d'un coup, il se lève, il coupe Scaloni, et par surprise, il s'adresse directement au sélectionneur et à la sécurité qui veut intervenir. Et il dit, coach, je veux que tu sois prêt. Parce que la France est une équipe très forte, je les ai vus. Plus que le Brésil et plus que l'Espagne. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Mbappé, coach, c'est le meilleur joueur du monde. Avec Messi et Dibou Martinez. Mais quand même, il faut faire très attention à la Coupe du Monde qui arrive. Et derrière, exfiltré par la sécurité, parce qu'il n'avait rien à faire là.
C'est des dingues.
Les Argentins ont peur de nous.
Mais tu vois, le débat qu'on a fait tout à l'heure à 15h30, est-ce que c'est un piège d'être favori? Exemple type, Ouais. Moi, j'aurais préféré que les Argentins arrivent avec un peu le melon.
Mais oui, bien sûr.
Ça tient érotique. Quand t'as été, en 20 ans, t'as fait 3 finales de Coupe du Monde, et que t'as la génération, tu choisis pas d'être favori. T'es favori. Tu choisis pas. Et à partir de là, nous, on peut s'asseoir quand même sur le, on peut être content et être costaud par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Et les mecs ont toujours bien appréhendé les finales. Rappelle-toi cette finale où on est mené 2-0 contre l'Argentine. À la sortie, bah, ça se joue à quoi? Au tir au but.
Et Scaloni qui lève le pouce, il fait ouais, j'ai compris le message, c'est bon, tout va bien. La Coupe du Monde rend fou également. Déjà, les Brésiliens, Jingle Brésil, ça va te faire plaisir.
Aïe, 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 oui, oui, oui. J'ai parlé français. Ah, bonjour, ça va? Ça va bien? Oui.
Au bel spécial.
Le Brésil n'a pas gagné la Coupe du Monde depuis 2002. Depuis 2002, aucune finale. Le Brésil. Du coup, la fédération tente de motiver ses joueurs par tous les moyens. En cas de victoire, ils ont négocié une prime, les joueurs, selon Estadão, le média. Prime négocié par une sorte de conclave de joueurs, Vinicius, Alisson Becker, Danilo Marquinhos, Casemiro et Bruno Guimarães. Tu le dis bien, Guimarães, Pirot.
Guimarães.
Ils ont négocié, et c'est important pour une Coupe du Monde de foot, $1 million par joueur s'ils sont champions du monde. 1 million, sachant que les Bleus en 2018, la dernière Coupe du Monde gagnée par les Bleus, c'était 300 000 euros par joueur. Les Brésiliens, ils ont négocié $1 million s'ils gagnent la Coupe du Monde, qui n'ont pas gagné depuis 2000.
Moi, ils sont payés.
Je pense que pour Vinicius, 1 million en plus ou en moins, je ne suis même pas sûr de voir.
Comment la fédération les paye
pour le foot de sélection, c'est très élevé pour les sélections.
C'est l'État qui paye. C'est l'État. Ils ont une grosse économie.
Quand tu gagnes la Coupe du Monde, déjà, tu touches un gros chèque de la FIFA.
Ils ont une grosse économie.
Ils ont une grosse économie,
puis quand
même. Kikadi.
Alors, la première question du Kikadi, Marion, tu vas laisser ta place, il y a du coaching, tu vas laisser ta place à Eric Dimeco.
Oui, parfait.
Donc, tu représentes Eric Dimeco sur cette question.
Voilà. Ah non, mince,
c'est la bonne réponse.
Eric, c'était connecté de moi.
Tu voulais t'arracher, Marion.
16h50.
Je voulais partir.
Kikadi, je suis déçu de partager que. Je vous partage que la semaine dernière.
Gracheva.
Varvara.
Gracheva.
Tu l'avais vu sur ma feuille, Denis, ou pas?
Non, pas du tout. Je la regarde.
Bravo. Oui, mais c'est pas parce que tu l'as là.
Oui, mais bon, il fallait mettre ligament croisé au moins.
Mais non, mais la guérison.
La numéro 2.
La numéro 2 française de tennis.
Oui, elle est originaire de Russie. Eh bien, c'est fait les croisés la pomme.
Non, mais je l'avais tous.
Mais oui, je sais que.
Mais oui, mais bon, tu finis pas ta phrase.
C'est Denis qui me coupe.
Mais
le premier point
pour
Denis
Charvet,
dans un instant.
Oui.
On s'est régalé, ma petite poulette.
Mais la même chose.
Dans un instant, on cherche un président pour l'Olympique de Marseille. Si vous avez une idée, vous appelez le 32-16. Eric Dimeco nous rejoint juste après les infos.
Allez, 16h58, le Super Moscato Show. On revient tout de suite.